On passe maintenant au Daredevil numéro 21. Dans ce tome, le début du run d'Andy Deagle sur le titre. Le
un gros morceau, Giga. Puisque quand même 7 épisodes.
7 épisodes, numéro 501 à 507. Au dessin, pour l'accompagner, pour le premier arc, c'est-à-dire jusqu'au numéro 504, on a Roberto de la Torre. Et sur le deuxième arc, c'est Marco Cecchetto.
Donc, pas de Michael Lark pour les deux arcs.
Oh, putain.
Oui, c'est vrai que je l'ai déjà fait en plus.
Beaucoup de fois.
Oui, beaucoup trop.
Beaucoup trop, ouais.
Déjà, la première fois, c'était une fois de trop, donc...
Mais bon, à la rigueur, sur l'univers de Daredevil, Michael Lark, bon, passons quoi. Au niveau de la partie graphique, moi, j'aime beaucoup les deux. Les deux styles vont bien, je trouve.
Ouais, alors le premier style fait plus Roberto penser justement à... Voilà, Roberto de la Torre fait plus penser à du Michael Lark.
Bah, c'est une équipe qui avait déjà travaillé ensemble sur Thunderbolts. Hein.
Donc, ouais, c'était un style plus urbain, justement. Le second fait plus... alors, je vais dire, ça va peut-être... Les gens vont dire, ah non, c'est pas vrai, machin, manga, quoi. Un style un peu plus...
Moi, je sais pas trouvé, mais en même temps, c'est pas trop gênant, puisque ça se passe au Japon.
Bah oui, mais justement, voilà, un peu plus...
oriental.
Oui, si on veut, voilà. En tout cas, la manière dont il dessine les ninjas et les agents de la main, ça colle bien, quoi, à son style.
Alors, on va essayer de résumer l'histoire sans donner trop de spoilers, parce que c'est... on va être clair dès le départ, c'est extrêmement bon. Donc, ce serait vraiment dommage de se faire spoiler l'histoire, parce que c'est vraiment un truc à découvrir, quoi.
Nous allons donc tout raconter dans le détail. Donc, page 1. Ouais. On va même le lire.
Ouais, voilà. On va le lire à l'antenne.
Voilà, tu fais Dakota et je fais Foggy. Oh, mais où est Matt? Oh, il est parti tôt ce matin. Il n'a même pas retiré sa robe de chambre. Il est parti comme ça. Bon, enfin bref. Bon, voilà.
Bien. Ça prendra son sens à la fin de l'émission.
On va dire oui, ça comme voilà, ça. C'est ça, exactement. Exactement.
c'est n'importe quoi. Matt a pris le contrôle de la main.
Oui. Juste après, au fait, l'épisode qu'on a eu dans un hors-série Dark Reign, The List, qui avait été publié d'ailleurs avant, au fait, le précédent album de Daredevil, qui se situait avant l'épisode The List. Donc, bon.
Une quinzaine de jours avant, je crois.
Une quinzaine de jours avant, et en plus, ça a été publié cet été. Donc, nous sommes en février. C'est vrai que c'est dur de se remettre dans le bain et de se rappeler forcément ce qui s'est passé.
Ouais, ou c'était peut-être en octobre. C'était le deuxième tome, et je crois que c'était peut-être en octobre. Oh, je sais plus quand était le dernier tome de Daredevil, tu vois, j'ai trop de mémoire.
J'ai l'impression que ça remonte, hein.
Ouais. Donc ça, c'était vraiment, The List, c'était vraiment le premier épisode du run de Deagle. Donc là, la série prend vraiment la suite, comme si vous avez lu The List, si vous l'avez pas lu. Je pense que Panini a dû faire un petit rappel.
Oui, voilà, il rappelle la situation, mais c'est vrai que ça peut surprendre, quoi. Si on s'est juste contenté de lire le précédent album, là il y a un cap qui a été franchi, quoi.
Ah oui, c'est clair. En ayant pris ce contrôle de la main, il va falloir qu'il s'adapte à avoir toute une armée à ses ordres, et puis une armée qui est quand même un culte d'assassins, quoi.
Oui, voilà, un culte d'assassins, il va falloir qu'il compose avec eux, qu'il s'impose en tant que nouveau chef quand même.
Et puis pour être ce nouveau chef réellement, il va falloir qu'il passe quand même une dernière épreuve.
Ouais. Qui sacrifie un innocent.
Voilà, le sang d'un innocent. Qui va-t-il choisir comme innocent et va-t-il aller jusqu'au bout? Va-t-il réussir à tuer quelqu'un de sang-froid?
Moi, franchement, quand je l'ai vu étrangler Dakota, je me suis dit, franchement, Deagle, comme scénariste, j'aime pas du tout. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, je plaisante.
Du coup, Matt devient plus proactif dans le combat contre le crime et il décide de commencer par éliminer la corruption au sein de la police.
Ouais, avec le fameux commissaire Gordon, Kurtz, qui est vraiment l'homologue de Gordon dans Batman.
Et puis il déclare quand même quelque chose d'assez fort, quoi. Hell's Kitchen est à lui.
Oui.
On avait déjà eu ça, mais cette fois-ci on le voit.
Oui, alors en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Bendis, il est bon de le dire, avait fait un arc qui s'appelait King of Hell's Kitchen, et dans cet arc, en fait, enfin moi je pensais qu'on allait nous montrer... Matt en tant que Caïd, quoi, puisque l'intrigue c'était qu'il prenait la place du Caïd et il en avait marre du Kingpin, donc il lui bottait le cul et puis il prenait sa place et puis voilà. Et au fait, Bendis avait fait un truc qui faisait que on avait sauté un an et on voyait les conséquences de ses actes, mais pas vraiment ce qui s'était passé durant cette période. Et ça m'avait un petit peu déçu. cette manière de faire les choses. Et là, ce qui est bien, c'est que Deagle vraiment met les pieds dans le plat, quoi, et il va, quoi. Et donc, on a vraiment Matt en chef de la main, et bah, on voit comment ça se déroule.
Du coup, le fait qu'il déclare le quartier d'Hell's Kitchen à lui, ça attire l'attention d'un certain Norman Osborn,
mais
à l'époque encore chef du Hammer, mais pas que, oui, mais principalement lui. Et donc, l'intelligence de Deagle, c'est de nous replacer Daredevil dans le Marvel Universe, dont il était vraiment écarté depuis maintenant quelques années, quoi. Daredevil ne participait plus vraiment au crossover, il était vraiment en marge. Et là, ah, hop, il nous le réintègre dans la continuité Marvel, quand même.
Il était même ailleurs, totalement, puisque, rappelle-toi, par exemple, dans Civil War, il se fait arrêter, chose qui n'arrive pas dans la série Daredevil à l'époque. Et c'était quand même assez emmerdant, puisque on se disait, bah oui, bah il y a un truc où il est dans la prison, et un truc où il est en liberté, enfin en liberté. C'était Bendis à l'époque au scénario, donc il était un petit peu en train de fuir, quoi, mais bon, ça correspondait pas à ce qui se passait dans l'univers 616, donc c'était un petit peu embêtant.
Plus récemment, un gros event comme Secret Invasion ne l'a absolument pas touché.
Ouais, c'est vrai.
Siege non plus.
Oui.
Donc voilà, enfin il est vraiment en dehors. Et là, Deagle a l'intelligence de nous le ramener dans l'univers Marvel. Donc de faire que Daredevil renoue des liens avec l'ensemble de la communauté super-héros, de même que les super-vilains en la personne de Norman Osborn.
Oui.
Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a cette intrigue du premier arc, on va pas révéler la fin de l'intrigue. On a aussi ce deuxième arc dessiné par Marco Cecchetto.
Si je peux terminer sur le premier arc. J'ai trouvé vraiment très bon déjà ce premier arc, et surtout je trouvais que l'ambiance avec la main, le caïd, les jeux de pouvoir entre les différents protagonistes, ça me faisait vraiment penser à la période Miller dans les années 80 sur Daredevil, quoi. Et franchement, j'ai vraiment aimé. Et donc voilà, bon bah vraiment pour moi Deagle a réussi son coup, quoi.
Ah oui, complètement.
Sur la reprise du personnage.
Complètement. Et puis, tu parlais de jeux de pouvoir et tout ça, on va plonger encore plus dans cette ambiance-là, puisque ce deuxième arc se passe au Japon, où Matt part rendre visite au Grand Conseil de la Main, avec les fameux Daimyo, parce qu'il y a un Daimyo dans sur chaque continent, en fait. Donc on a un Daimyo sud-américain, un européen, un pour l'Asie, un pour l'Afrique, et puis un pour les États-Unis, en tout cas l'Amérique du Nord, et c'est White Tiger qui l'avait mis comme Daimyo, ce qui pose des gros problèmes étant donné que c'est une femme. Et on découvre, c'est donc ces cinq Daimyo différents.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que il lui fait remarquer aussi que, Matt leur fait remarquer que ils avaient nommé, il fut un temps, Elektra.
Oui. Voilà. Des choses qu'ils ont tendance à vite oublier, à vite faire style. Ça
oui,
n'a
enfin à dire, non, mais surtout à dire que c'était une erreur et qu'ils ne la reproduiront plus, justement.
Il va là-bas pour régler des affaires avec la main, justement, montrer qui est le chef et essayer d'unir vraiment tous ces différents clans, en quelque sorte, sur chaque continent.
Bah, les généraux.
Dans le même but, quoi. Dans le même but, voilà. Et on a le Daimyo sud-américain. J'ai dû noter son nom quelque part, mais je le trouve.
Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, c'est un petit connard, quoi.
Oui, qui est vraiment qui est contre lui, qui est contre Matt, qui est contre White Tiger, et voilà, et qui veut la place à tout le monde.
Qui est vraiment pas dans la tradition. Quoi. Les autres, c'est vraiment des vieux de la vieille.
Bah, qui se battent à l'épée, lui, sort des flingues, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est le fils du précédent Daimyo, et d'ailleurs, bon.
Je sais pas si c'est son fils. Je crois que c'est plutôt le précédent Daimyo, c'était son mentor, mais il l'assassine.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Enfin, en tout cas, oui, voilà, il l'assassine. Il ose carrément franchir le pas et prendre sa place sans scrupule, quoi.
Il y a toutes ces affaires, donc lui est contre Matt, les autres veulent porter Matt au pouvoir, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Finalement, lequel des clans a vraiment raison? Puis Matt, que vient-il faire au milieu et va-t-il réussir à sortir de tout ça? Il y a vraiment là une autre ambiance que celle du premier arc, c'est vraiment là c'est vraiment la lutte de pouvoir, pure et dure.
Et Matt aura besoin d'un coup de main.
Oh oui, ça vient de percuter là.
Oui, d'accord, voilà.
J'avais pas compris au début, je me dis de quoi tu parles. Ah oui, effectivement. Donc moi franchement, je trouve qu'il y a une très très bonne tenue des persos. On voit passer Foggy, Dakota rapidement, un peu trop rapidement à mon goût, mais on les voit passer quand même, ils les oublient pas.
Non, mais enfin bon, c'est le temps de trois épisodes, hein, c'est le second arc.
Et puis Foggy se retrouve dans la merde aussi.
Ah oui, aussi.
aussi. On ne dira pas pourquoi, mais il se retrouve dans une très mauvaise position.
Et c'est pour ça que ça me rappelle grandement des épisodes par Miller sur Daredevil, où même les personnages secondaires étaient vraiment sur des charbons ardents, quoi.
Franchement, un super arc. Alors, le run de Deagle a pas été forcément apprécié par tout le monde aux États-Unis. Peut-être à cause du fait que Matt prenne le contrôle de la main et que ça paraît pour certains complètement fou. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée, quoi.
Non, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne lieu à de bonnes intrigues. Là, les deux arcs étaient bons. Alors, le deuxième faisait peut-être plus penser à un arc de Wolverine, je trouve.
Bah, il y a l'ambiance Japon, quoi.
Et puis, voilà, bon, le côté un petit peu enquête. Et puis, Matt, on le sent bien plus rentre dedans, là, quand même, hein, dernièrement.
Oui, et puis...
Il monte dans les tours, quoi. On sent que...
Puis, en même temps, c'est plus... on sent qu'il ne sait plus où il en est.
Oui,
il a des pertes de repères totales.
Bah, d'ailleurs, voilà. on mesure l'ampleur de la catastrophe. Dans le premier arc, une fameuse scène avec des... dans les égouts, quoi. J'en dirais pas plus. Là, on se dit, ah oui, effectivement, oui.
Bon, en tout cas, c'est vraiment bon. Les dessins sont vraiment bons aussi. Ça colle tout à fait avec l'ambiance des Daredevil. Moi, franchement, j'adore, quoi. J'adore.
Disons que c'est peut-être un peu différent, effectivement, de ce qui a été fait ces dernières années par Bendis et Brubaker, mais c'est toujours très bon. Et moi, justement, ça me rappelle de
Justement, il n'y a pas de stagnation, justement. C'est ouais. Bien différent, donc c'est ça qui est aussi intéressant.
Et ça me rappelle le Daredevil des années 80, donc c'est vraiment pas mal.
Donc bah voilà, hein, vous savez quoi faire si vous aimez Daredevil, et puis ça peut être aussi l'occasion de s'y mettre, parce que malgré tout, ça reste relativement un bon jumping point.
Ouais, alors par contre, ils nous annoncent que le prochain album sera Shadowland. Mais alors Shadowland, comment font-ils le
publier? Shadowland, ça avait été expliqué, Shadowland sort en juillet. Alors, il y a un, je sais plus si c'est de la librairie ou si c'est du kiosque, où tout Shadowland sera publié, toute la mini-série Shadowland, les 5 parties. Et je pense que ça va coïncider avec la sortie du tome suivant de Daredevil, où on aura les épisodes tie-in à Shadowland dans le Daredevil tome 22.
D'accord.
Épisodes qui sont plus centrés sur les personnages autour d'eux.
Bah bien sûr, ouais. Bah c'est la série Daredevil, quoi.
Voilà, donc il nous reste plus qu'une chose, découvrir Shadowland. Enfin, bon, ceux qui veulent savoir peuvent écouter les comics wiki.
Ouais, le fameux fil rouge, c'est vrai qu'on en a vraiment plus que parlé. On a couvert un peu tout Shadowland. Quasiment. Donc, reste à voir si on aura tous les tie-ins aussi en français. Je ne crois pas.
Je ne pense pas.
Ouais.
Je ne pense pas. Quoique, je crois qu'il y a un monster aussi avec les tie-ins.
Bon, on verra. On en reparlera.
Juillet sera le mois de Shadowland. Et si vous aimez Daredevil, je pense que vous n'allez pas être déçus. Autre chose à rajouter?
Non. Non, vraiment, voilà, un bon démarrage. Je suis... entièrement d'accord avec toi, Deagle fait du bon travail, en tout cas pour le moment. Essayez, quoi, je pense que vous serez pas déçus.
Bien, allez, on va passer à la suite. Et on accueille notre deuxième guest de ce 50e numéro avec Fuch.
Salut.
De Cap Chronicles.
Oui, content.
Tu vas bien, Fuch?
Ça va, et vous?
Eh ben, ça va bien, merci de me vous voyez, quand même.
Fuch a trouvé du Semic en promo, d'ailleurs il va peut-être faire une petite news. Allez, petite news de Fuch, le petit plus de Fuch.
Allez à Carrefour et Auchan et déposez vos sous, il y a plein de trucs bien.
Par exemple?
Du Powers, du Green Arrow par Kevin Smith, du Sleeper,
les anciens Semic Books, quoi. Les Semic Books.
Voilà, les Semic Books, à 2 € pièce.
Si vous avez de la chance, hein, parce que on sait jamais. Hein.
Si tout n'est pas déjà parti, si Fuch n'est pas déjà passé dans tous les Carrefours et Auchan de France...
J'avais l'air d'un malade. Hein. À Auchan, t'avais des petits gamins, ils étaient là, juste à côté des mangas, ils me regardaient pizza. Je dis, vous avez l'air d'aimer. Ouais. Parce que je prenais chaque pile et... Ah voilà.
Donc, c'est la review d'Irredeemable tome 2, ou en français, irrécupérable. Ce sont les épisodes 7 à 12 de la série. La série est toujours écrite par Mark Waid, au dessin toujours Peter Krause. Cette fois-ci accompagné de Diego Barreto à partir du numéro 10. Ils se partagent les épisodes en deux, en fait. Donc, c'est la suite des aventures du Plutonien. Ou plutôt des mésaventures du Plutonien, comme on veut.
Plutôt des mésaventures de ses coéquipiers.
Et des terriens.
Voilà. Enfin, pour ce qui en reste, parce que déjà à la fin du tome 1,
il n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas encore tué tout le monde.
Non, pour l'instant, il s'est calmé un peu.
Donc ses anciens équipiers, qui s'appellent le Pandémonium,
le Paradigme,
excuse-moi. Paradigme commence à déterrer un petit peu des secrets sur ce qu'il a été, essaye de comprendre un petit peu quelles sont ses faiblesses et comment se débarrasser du plutonien. Voilà grosso modo où on en est au début de l'histoire.
Ouais. Mais justement, on va en apprendre un peu plus sur le plutonien, mais pas trop, en fait. On va comprendre un peu plus pourquoi il a pété les plombs. Mais surtout, ce qu'on va apprendre, c'est beaucoup plus de choses sur les personnages autour de lui, justement, les autres super-héros. Et on va voir qu'ils sont aussi assez torturés, assez perturbés, en fait.
Moi, justement, je trouve qu'on en apprend un peu de trop.
Ah bon?
Non, bah, on apprend quand même. Enfin, à la fin du tome 1, bon, il se termine avec... Enfin, j'ai oublié son nom, là. L'un des deux jumeaux, là, qui est resté dans la base du plutonien pour laisser permettre à ses coéquipiers de partir.
C'est Caribde qui est resté à la base. Puisque c'est Scylla qui est mort.
Mais je trouve qu'on apprend, on apprend déjà pourquoi il a flanché, tout de même.
Oui.
Ça, donc, c'est quand même un sacré, je trouve que c'est quand même une sacrée révélation aussitôt. Mais même globalement, ça reste toujours aussi bon, mais je trouve qu'il y a beaucoup de, on apprend quand même pas mal de secrets, notamment par rapport aux coéquipiers, même par rapport au fameux Modus.
Ouais, quelque chose comme ça.
Son fameux vilain aussi.
Moi, je trouve que c'est bien. Il fait avancer son histoire et il délaye pas la soupe qu'il pourrait s'amuser à délayer la soupe pendant des numéros et des numéros et ça s'essoufflerait. Là, au moins, il y a un certain rythme et on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir une série qui avance réellement, surtout quand elle est dans un univers autocontenu comme ça, quoi.
Par contre, moi, ce que j'ai trouvé un petit peu poussif, c'est la manière dont il pète les plombs, dont le plutonien pète les plombs. J'ai trouvé ça un petit peu. Je comprends. Mais en même temps, je trouvais ça un petit peu exagéré.
Pour moi, c'est un peu un enfant, en fait. J'ai l'impression, enfin, surtout en lisant le tome 2, on apprend un peu plus sur son enfance, tout ça. Mmh. Il m'a vraiment donné l'impression, on voit qu'il n'a pas eu une enfance idéale, et on sent qu'il a des tonnes de pouvoirs, mais il n'a pas eu le soutien psychologique que tout son enfant aurait pu avoir pour contrôler ses pouvoirs, etc. Il n'a rien eu.
Il a pas eu le soutien d'un Superman, quoi.
Voilà, il a pas eu le soutien, voilà. Il a pas été hébergé par une famille toute gentille de fermiers.
Il avait une famille toute gentille, en quelque sorte. Mais il y a eu juste un événement qui n'est jamais arrivé dans l'univers de Superman, et c'est ça qui a tout déclenché.
Mais justement, là, je dirais, il a pas eu d'enfance réellement, quoi. Il a eu une enfance, d'un seul coup, qui a pris fin, et du coup, elle a jamais été consommée, quoi. Il est toujours resté enfant dans sa tête.
Et justement, quand il pique ses crises de colère, là, t'as vraiment l'impression que c'est un gamin il dit pourquoi on m'en veut, pourquoi.
Oui, bien sûr.
Je comprends pas. Et moi, je trouve justement. En même temps, je trouve ça mieux, parce que c'est plus beaucoup plus réaliste. Hein. Je sais pas, tu recueilles quelqu'un comme lui chez toi, qui a des pouvoirs,
il voit qu'il se manifeste.
En général, t'es pas comme les Kent, t'as dit ah, c'est cool, on va te garder, etc. En général, voilà, tu flippes, hein. Alors, moi j'ai un gamin qui est comme ça, je me casse. Tiens, je te laisse la baraque, le chien, salut.
On voit, enfin, tu disais Benny tout à l'heure qu'on apprenait peut-être un peu trop de choses, mais et qu'on voit le déclenchement.
Je crois que c'est Fuch qui dit.
Pardon, excuse-moi, c'est donc Fuch. Tu disais qu'on apprend peut-être un peu trop de choses et qu'on voit le déclencheur, mais finalement, est-ce qu'on voit le réel déclencheur? Puisqu'on avait déjà l'impression qu'on a vu le déclencheur dans le premier tome, quand il a vu son identité de révélée,
disons etc. Que je pense plus, c'est pas vraiment le déclencheur, on va dire plutôt c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire plutôt.
Mais je pense que Mark Waid en a encore sous la pédale, hein. Derrière, il y a encore des choses.
Sous le coude même, j'irais même.
Oui, voilà, non, je pensais à autre chose.
Il
en a encore, sous le coude pour nous expliquer pourquoi il a pété les plombs. On voit là de toute façon.
Je suis pas sûr sur la durée si ça va tenir. Et
ben pourtant aux États-Unis on en est déjà l'épisode numéro 22 je crois.
Il paraît que ça prend un tournant et que c'est encore mieux.
Ça dépend parce que je trouve déjà dans le tome 2 il exploite plus les persos secondaires. On apprend notamment le passé, il y a notamment une évolution d'un personnage. On se demande même s'il peut pas être pire que Plutonien.
Oui.
Là ça peut être intéressant.
Alors selon un lecteur de mon comic shop. Franck, pour ne pas le nommer, je crois, hein, si je dis pas de bêtises en plus, qui a lu Irredeemable, il me disait qu'il y avait peut-être un petit creux de la vague, un petit passage à vide vers l'épisode, là où on en est, je pense. une petite baisse de tension, et puis après ça remonte vraiment énormément vers l'épisode 20, avec un twist formidable, et c'était vraiment très très bon.
Mais on a des nouvelles pistes qui débarquent, avec notamment ce qui arrive vers la fin. On va pas en parler, hein. Mais voilà, le plutonien a un sidekick.
Oui, aussi, oui. Ouais. Et un sidekick qui... est-ce que c'est lui?
Oui, enfin... Que... Ouais. Quelle va être l'influence de ce sidekick sur lui? Enfin, pour moi, il met vraiment des bonnes pistes et ça reste vraiment une putain de bonne série, quoi.
Alors, non, il y a un truc qui m'a semblé complètement... je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire? Marco Aide a fumé la moquette, c'est cette espèce de créature...
Ouais. Hein, et... bon. Je pense que c'est un problème de la série, c'est qu'on arrive, enfin déjà dans le premier tome là, on arrive déjà dans un univers qui est déjà posé depuis le départ. Et comme tu disais, enfin tout à l'heure Steve est cherché le nom de l'équipe. J'ai beaucoup de mal moi encore à savoir le nom des personnages par exemple.
Oui, mais oui, mais c'était le problème que j'ai vu déjà dans le premier tome moi aussi.
Ce fameux personnage qui apparaît, on sent qu'il a déjà eu un passé avec les anciens, mais
ouais, bah, c'est expliqué quand même. Enfin, on nous dit que c'est une créature qu'ils ont déjà combattue. Mais en même temps,
parfois j'ai l'impression de manquer, tu vois, j'ai l'impression de manquer une lecture. Il y avait des numéros bien avant. Et...
Par exemple, si tu prends une équipe comme la JLA aujourd'hui, si tu découvres la JLA aujourd'hui, tu n'as pas forcément lu tous les numéros qui sont sortis depuis les années 60. Et quand on te fait une référence, bah tu dois l'accepter. Et je pense que Mark Waid essaye de nous faire ça en fait. C'est-à-dire que tu découvres la série maintenant comme tu pourrais découvrir telle ou telle équipe que maintenant, et tu ne sais pas forcément tout ce qui s'est passé. Tu le découvres petit à petit.
Oui, au fait, c'est vrai. C'est comme si c'était pas vraiment le numéro 1, 2, 3,
ouais,
etc.
Voilà, c'est
mais le numéro 64, ou enfin même 600, 684, 685, etc.
Oui, pour moi, c'est ça. Quoi. Il faut accepter de pas tout savoir et que les choses soient petit à petit révélées. Et je trouve que Mark Waid s'en sort très très bien là-dessus, quoi. Il sait ménager son suspense, mais il sait aussi nous donner des révélations qui te donnent envie de continuer, quoi.
Bon, ce qui est intéressant, c'est surtout les flashbacks à chaque fois. On en prend toujours pas petite dose.
Ouais.
Ça, c'est intéressant. Ça.
On sent l'expérience du gars, quoi. Enfin, Mark Waid, c'est vraiment pas un débutant. Et là, il le prouve une fois de plus.
Bon, bah écoutez, je crois qu'on pourrait parler de plus de choses, par exemple de Betty Noir, mais on va pas le faire parce que...
Voilà,
ce serait spoilant.
On finit quand même le tome avec un petit preview tiré du
vraiment petit,
Ball Special. Oui, mais c'était la version américaine comme ça, elle était vraiment comme ça. C'est tiré d'un épisode spécial donc qui s'appelle Irridame Ball Special. C'est un spécial sur Max Damage. C'est écrit par Mark Waid et dessiné et ancré par Howard Chaykin. Et donc c'est le personnage que l'on retrouvera dans la série Incorruptible, qui devrait pas tarder d'ailleurs en français, je crois aussi.
Pour ce que j'en ai lu, moi, franchement, ça vaut pas un Incognito, par exemple.
Ah, mais c'est en fait, Incorruptible, c'est une série qui a à voir, enfin, c'est le pendant de Irredeemable. Ouais,
deux voilà, c'est ça, quand j'ai lu ça, bon, ça m'a fait penser. C'est le même principe qu'Incognito, avec le... En gros, c'est un super criminel qui décide de devenir gentil. Mais voilà, la preview, c'est vraiment 2-3 pages. Je sais pas si Delcourt va les publier en France.
Apparemment c'est prévu hein.
Parce que j'ai vu que t'as Irrécupérable qui est au numéro 23 et Incorruptible qui est au numéro 15 donc
c'était prévu hein, normalement dans la checklist de l'année c'était prévu donc je sais plus quand ça sort. Moi il me tarde de le découvrir quand même puisque je suis pas sûr qu'il joue réellement les super-héros hein. J'ai plutôt l'impression que enfin il a besoin de gérer un petit peu ce qui se passe avec les problèmes qu'apporte le plutonien. Et quand on est un super-vilain et que le plus grand super-héros devient un super-vilain, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est ça le thème de la série.
On fait la fête.
Enfin, de toute façon, là, en l'état, je suis pas sûr
que
ça va
faire la série. Hein. Grosso modo, on n'a rien sur la série. On nous présente juste le personnage et on nous présente son pouvoir que tu as particulièrement aimé, Benny, je crois.
Oui, qui est assez marrant, c'est-à-dire que le mec, en fait, quand il dort, il se réveille ensuite, et après, une heure après son réveil, il devient un peu plus fort, 3 heures après, il est encore plus balèze, etc., et au fait, au fur et à mesure de la journée, il devient de plus en plus fort, et uniquement lorsqu'il dort, lorsqu'il se couche, il perd ses pouvoirs et rebelote quand il se réveille, quoi.
Voilà, donc là, bon, voilà. Là, on le voit aller dans un...
Donc c'est assez marrant, enfin, c'est assez original, je trouve, comme pouvoir.
Oui, c'est très original comme pouvoir. Là, on le voit aller dans un bordel, puis parce qu'il va chercher un coéquipier, en quelque sorte, un mec qui devait l'aider pour un braquage, si j'ai bien compris.
Ouais.
Et le mec était en train de se taper des prostituées.
C'est étonnant dans un bordel. Moi, je pensais qu'il allait se taper, je sais pas, un cochon, trois chiens.
Ça aurait pu être possible. Hein. Oui. Il y a tout type de bordel. Donc voilà, et puis ça tourne mal et... Oui, c'est la grosse éclatade, quoi. Bon, bah, c'est du award shaking, donc on aime ou on n'aime pas.
C'est comme Agnor. Non, j'allais dire, c'est comme Agnor, il y a le bordel de la chèvre hurlante. Je crois, Steve, que tu connais.
Faudra voir s'ils éditent la série, pourquoi pas. Mais là, actuellement...
À savoir que la série ne sera pas dessinée par award shaking, hein, du tout. Je ne sais plus qui est au dessin, mais c'est pas award shaking.
Faudra voir.
Donc voilà. Moi, ça m'attire, en tout cas, après. Bon, bah, toi, Fuge, ça ne t'attire pas trop, apparemment.
Par contre, la série est récupérable en elle-même, je la trouvais toujours excellente. Même si, enfin, je sais pas, je pense que c'est le fait que j'ai relu le tome 1, et c'est pour ça que le tome 2 m'a paru, il y avait beaucoup de révélations, mais voilà, s'ils en ont encore mieux, ben voilà, j'ai toujours continué, c'est toujours plaisant à lire, c'est bien écrit, bien dessiné, et on sent, comme tu dis, le mec d'expérience, hein. Y a pas de doute, hein.
Quelque chose à ajouter, Benny?
Bah écoute, peut-être effectivement, après un tome 1 qui démarrait sur les chapeaux de roue, pas une baisse de tension, mais... voilà, comme dirait Fuge, on se dit mais où ça va aller. Alors ouais. On verra. Mais
est-ce que ça va se la durer?
Ouais, est-ce que ça va tenir? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore, comme tu dis, qu'il a gardé encore des choses sous le coude. Et comme tu le disais si bien avec cette jolie expression, qu'il a pas trop délayé la purée. Non, la soupe. Ouais. Délayé la soupe.
Si je peux, moi je rajouter un truc, c'est par rapport à l'édition française. Je trouve que c'est un peu dommage. J'ai du mal à rentrer avec les rappeler des noms des personnages tout ça. C'est dommage qu'ils ont pas fait, enfin Delcourt n'a pas fait comme fait avec Walking Dead, c'est faire un résumé des personnages.
Ou Invincible d'ailleurs.
Qui sont morts et vivants et faire
pourtant, c'est quelque chose qu'il y a dans l'édition américaine.
Ouais, c'est ce que j'ai vérifié justement et c'est dommage que parce que bon, je sais plus quand le premier tome était sorti.
Il y a longtemps, oui, c'est vrai que j'ai eu du mal à me remettre dedans aussi.
J'ai eu beaucoup de mal.
Et c'est aussi par rapport aux couvertures, c'est que ben moi j'aime bien dire en bonus, je trouve que c'est un peu faible. Hein. Ils ont mis deux trois couvertures variantes.
Il y a même pas. Ah oui, il y a les variantes.
En fait, ça fonctionne par chapitre, donc t'as la couverture, mais en fait ils ont, enfin c'est en encadré avec un filtre de couleur et c'est dommage, on n'a pas les couvertures en couleur.
D'accord.
À la fin, bon c'est pas grand chose, hein, c'est pas ça qui gâche l'histoire, mais c'est vrai qu'en bonus c'est toujours agréable d'avoir.
Non, puis c'est vrai que la page avec les personnages, c'est vachement utile. Donc Thierry Mornay, si tu écoutes Fuge, Fuge n'est pas content, attention.
Non, mais c'est toujours un bon boulot, quand même.
Non, mais il
sauve le truc.
Après, je sais pas, peut-être qu'ils vont les faire plus tard, je sais pas. Ça serait une question à lui poser.
Ouais. Je crois que tu voulais lui demander des comics gratuits aussi.
Voilà. Donc je fais le tome 3.
Et les chiffres. Bon, bah, c'est dit.
Un appel.
Bien, et ben un bon cru encore, hein, malgré tout, même si quelques réserves, mais un bon cru. Bien, et bien merci à toi Fuge de nous avoir rejoint pour cette petite review d'Irredeemable.
Bah de rien. Merci de m'avoir recueilli. Oui.
Et puis on te retrouve très bientôt dans un spécial.
D'accord.
Qui a déjà été enregistré. Hein. Magie du montage, ça sortira après.
Voilà.
Bien, bah merci beaucoup Fuge et puis bah à très bientôt.
Et oubliez pas d'aller à Carrefour et à Auchan.
Oui, si vous voulez faire le plein de comics. Ouais. Pas cher. Et on va reprendre le cours de nos reviews avec.
Le cours normal de l'émission.
Voilà, avec la sortie d'une nouvelle série chez Vertigo, American Vampire. Ce sont donc les épisodes 1 à 5 de la série. C'est écrit par Scott Snyder et Stephen King. Deux parties différentes, on en parle tout à l'heure, et Raphaël Albuquerque au dessin pour les deux parties. On a deux histoires, une qui se passe en 1925 et une autre qui commence en 1880. La partie 1880 est celle écrite par Stephen King, tandis que la partie 1925 est écrite par Scott Snyder.
D'ailleurs, c'est la première fois qu'il écrit pour un comics, au fait.
Réellement, c'est bien possible, oui. J'ai pas été vérifié, mais c'est bien possible. Dans ces deux histoires, donc, bah déjà American Vampire, donc forcément on va parler de vampires. En 1925, on a toute une, enfin on a l'héroïne principale qui s'appelle Pearl Jones et c'est une femme qui cumule des boulots, mais principalement elle est actrice de cinéma, en tout cas figurante.
Oui.
Plutôt. Mm-hmm. Et donc elle va évoluer. Bah,
fraîchement débarquée d'ailleurs Hollywood, puisque elle vient de la campagne, il me semble.
Oui, c'est ça, ouais. C'est pas précisé exactement dans quelle ville, mais...
Voilà, enfin, c'est largement suggéré qu'elle vient avec son amie à la recherche de la gloire et de la célébrité, quoi. C'est un petit peu le rêve américain, et puis à l'époque, voilà...
C'est pas tout à fait ça, oui, à l'époque, c'était... Ouais. Il y en avait beaucoup. Hein. Mmh. Même encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Mais enfin, je veux dire, là, c'est vraiment la, la nouvelle Amérique, on va dire, les années 20, enfin voilà. Bon, elles espéraient trouver le, la gloire et le succès, voilà. En devenant actrice à Hollywood.
Les années folles, quoi.
Ouais.
Et puis, bah, elle rencontre la grosse star du film, qui voit un potentiel en elle et la présente au producteur du film, pensant que peut-être comme ça elle pourra gravir les échelons de la célébrité du cinéma. Et il s'avère qu'en fait son producteur est un vampire et qu'il se sert d'elle uniquement pour la bouffer, pour se nourrir.
Enfin pour en faire profiter aussi ses amis, hein. Oui, vampire également, vampire eux aussi. Et voilà.
On va rester là sur cette histoire pour le moment. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. En 1880, c'est l'histoire de totalement autre chose. C'est un monsieur qui est un vieil homme qui raconte un petit peu son histoire, l'histoire qu'il a écrite dans un roman. Ce roman s'appelle Bad Blood, donc mauvais sang. Mm-hmm. Et c'est l'histoire de Skinner Sweet. Alors je sais pas si je me rappelle plus si, enfin je sais pas du tout s'ils l'ont traduit comme ça.
Ils ont gardé le même nom.
Et donc Skinner Sweet, c'était le chef d'un gang qui faisait des hold-up et qui a été attrapé par le shérif.
Ouais, c'était un truand quoi, un truand de la vieille époque, la vieille école même.
Et là lui aussi va réussir à s'échapper grâce à son gang et puis par un malheureux concours de circonstances va devenir un vampire.
Voilà, mais pas un vampire de l'ancienne génération justement.
Voilà. Car dans cette histoire, pourquoi American Vampire, c'est que on a les vampires européens classiques, ceux qu'on connaît de la littérature, etc. Mais les vampires américains ont autre chose, d'autres pouvoirs, d'autres facultés et d'autres résistances surtout. Notamment, ils peuvent marcher au soleil.
Oui, ils ont muté, quoi, en fait.
Voilà, c'est ça.
Une nouvelle génération de vampires qui arrive avec lui, quoi, qui envahit les États-Unis. Enfin, qui envahit les États-Unis. Pour le moment, on voit surtout ce qui se passe autour de ce personnage-là, quoi.
Et donc, l'histoire va avancer. Et finalement, ces deux histoires...
vont se rejoindre, oui.
Vont se rejoindre et se mélanger l'une à l'autre. Et ça va nous donner une grosse histoire qui se passe sur différentes époques. Donc, on a 1880. Puis ensuite, on avance en 1909. Pour l'histoire du passé, ça a été écrit par Stephen King. Et toute la fin de l'histoire se passe en 1909. Puis on a cette histoire par Scott Snyder en 1925. Le tout se mélange habilement.
Ça alterne en fait. C'est vraiment sorti comme ça aux États-Unis. C'est-à-dire il y avait une partie du comic qui était sur 1925 et une autre sur 1909. En fait.
Ouais. Et donc ils ont gardé cette édition-là en France. Et c'est comme ça qu'il faut le lire de toute façon, quoi. Puisqu'on découvre petit à petit les liens, ce qui s'est passé avant, etc. Et on pourrait croire que, vu que on a ce qui se passe ensuite en 1925, l'histoire du passé n'a aucun intérêt. Et bien au contraire, on trouve toujours des petites, il y a toujours des petits fils scénaristiques qui sont donnés, auxquels on s'attend pas.
Ouais, oui, oui. Enfin, il y a quand même quelques trouvailles, mais grosso modo, l'intrigue générale, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle justement en français, ça a été traduit par Nouveau Sang, je crois, 109, voilà. 109, et justement, je trouve que pour une histoire de vampire, ça manque un petit peu de 109, au fait, cette histoire. Parce que, on va pas me faire croire déjà que c'est la première fois qu'on a une histoire avec des vampires qui ont un peu évolué et qui ne meurent plus à la lumière du jour, quoi. Donc là, effectivement, le mec, c'est un espèce de... Enfin, Sweet, c'est un espèce de... C'est vraiment le méchant, enfin, la pourriture, quoi. Le mec qui tue pour tuer parce que ça l'amuse. Et de surcroît, maintenant, il est super balèze parce que c'est un vampire nouvelle génération. Mais, je veux dire, c'est pas vraiment nouveau, quoi. Tu vois, des histoires avec des vampires différents, on en a déjà eu maintes et maintes fois... Bon là, effectivement, il y a le truc avec les deux époques qui s'entrecroisent, mais...
Puis le placer dans les années 20, quoi.
Enfin voilà, c'est peut-être le plus intéressant, c'est de choisir que ça se passe dans les années 20. C'est peut-être le plus intéressant. Et encore, finalement, tu vois, ça se passerait à une autre époque. Finalement, ça changerait pas vraiment l'histoire, quoi, tu vois. T'aurais ce combat entre les deux générations de vampires, pareil, quoi, finalement. Les années 20, comme toile de fond, je trouve qu'ils sont pas allés assez dans la critique de l'époque. On se rend plus compte que ça se passe dans les années 20, dans des trucs comme Marvel Noir, etc., quoi.
Il y a tout le dialogue. Alors, je pense pas que ça puisse être respecté en français, mais en tout cas, le niveau de langage utilisé dans la VO te montre que c'est les années 20, puisqu'il y a des expressions de l'époque, il y a des façons de parler de l'époque.
Là, je dois dire que j'ai pas ressenti vraiment que. Non, même pas du tout d'ailleurs. Donc je sais pas si ça a été vraiment respecté dans la traduction, quoi.
C'est toujours délicat puisque c'est des expressions propres à la culture américaine de l'époque, quoi. Donc voilà, il y a des choses qui montrent que c'est dans les années 20, même dans les dialogues, et même en 1880, on a aussi une autre façon de parler.
C'est-à-dire qu'au début, tu vois, je pensais qu'ils allaient montrer un petit peu toute la crasse qu'il y avait derrière le strass et les paillettes, mais au fait, même pas, parce que ça devient très vite accessoire que la nana voulait découvrir Hollywood et qu'elle voulait être actrice. Après, on part totalement sur une histoire de vengeance, puisque c'est ça, hein, une histoire de
Oui.
vengeance, finalement, en tout cas en 1925. Voilà, bon, au fait, il manque un ingrédient, peut-être même plusieurs, qui fasse que American Vampire soit une série vraiment marquante et que ça fasse partie de ces nouvelles séries comme The Unwritten dont on va parler, qui vraiment vaut le coup, quoi, vaut le détour. Là, je reste un peu sur ma faim, ce qui est un peu dommage pour une histoire de vampire en plus. Et voilà, je sais pas si. Je suis pas particulièrement pressé de lire le second volume, quoi. C'est
D'accord.
un peu
Bah,
embêtant.
moi justement, j'ai envie de lire ce second volume pour voir sur quoi ils vont partir, puisque l'arc se termine vraiment au numéro 5. D'ailleurs, la série pourrait s'arrêter là. Il y a encore des histoires, enfin, il y a encore quelque chose en suspens, on le voit bien à la fin, on donne un petit twist qui nous laisse nous poser des questions, mais ça pourrait s'arrêter ici. S'il n'y avait pas de suite, ce serait presque pas gênant. Mais en même temps, j'ai envie de voir sur quoi ils vont repartir.
Ouais, alors bon, enfin, tu vois, pour un truc avec Stephen King en plus, je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre, quoi, à quelque chose de meilleur, quoi, tout simplement quelque chose qui vraiment je me dise, ah bah oui, en effet, ouais, American Vampire, ça fait partie de ces nouvelles séries qu'il faut suivre absolument. Là, j'ai envie de te dire, c'est alors c'est pas le vampire romantique, etc.,
Non,
mais
loin de là. D'ailleurs, le vampire est
pas du tout.
plutôt, c'est plutôt des vampires à la Tarantino dans Nuit en Enfer. Hein.
Voilà, c'est ça,
Visuellement,
ouais, c'est vraiment des.
c'est plus
Ouais.
ça.
C'est des grosses machines à tuer, quoi. C'est des
On est
grosses
plus
machines à
proche,
tuer,
ouais.
c'est des gros monstres.
On est plus proche de ça que de Twilight, quoi.
Ouais. Mais justement, c'est pas tellement novateur. Il manque vraiment le truc qui fasse que,
Je
voilà.
suis pas sûr que ça avait vocation d'être novateur, hein,
Ah ouais,
au
mais quand tu
départ.
vois le nom de Stephen King, Scott Snyder, tu te dis, l'association des deux, ça peut donner vraiment quelque chose de bon. Et là, ma foi, bon bah voilà, il y a des vampires. D'ailleurs, c'est des vampires, oui et non, parce que finalement, justement, comme on dit, cette nouvelle race, c'est des espèces de monstres, puisqu'ils sont, ils ont pas que les crocs, en fait, enfin, ils ont des énormes griffes.
Ouais, enfin, c'est des Lady Deathstrike, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. C'est vraiment des espèces de monstres, purement et simplement. Bon, c'est pas. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire, quoi.
Mais moi, je veux dire, j'avais un assez mauvais a priori, puisque j'avais acheté le numéro 1 à l'époque de la sortie, puisque bon, c'est la façon de faire de Vertigo, les numéros 1 sont à 1$, je me suis dit, allons voir, en plus, il y a le nom de Stephen King. Voyons ce que ça donne. Et j'avais pas été super super emballé par le numéro 1. Enfin, c'était sympa, mais j'avais pas eu forcément envie d'aller voir la suite, c'est pour ça que j'ai pas continué. Et donc, bon, là on s'est dit on va en parler quand même, et je me suis dit, oh là là, voilà quoi, il faut que je me le retape, parce qu'en plus je m'en rappelais que très très peu. Je me suis dit, ça me passionne pas, quoi. C'est vraiment le truc que j'ai lu en dernier. Et ben en fait, j'ai pris une bonne petite claque parce que j'ai trouvé ça vachement sympa. Parce que j'avais un a priori assez négatif au départ, finalement.
Bah moi justement, je savais pas trop quoi penser. J'ai lu le premier, je me suis dit bon ok, ouais, il y a peut-être quelque chose. Et puis j'ai lu le deuxième, puis en fait il y a aucun moment où vraiment il y a un twist. En fait, ce qui manquait c'est un petit truc en plus, quoi, un petit twist, un moment qui fasse que ça décolle vraiment. Là finalement, j'ai lu le premier et je trouve que les autres épisodes étaient à l'image du premier. C'est-à-dire
Ah, pour moi,
ça restait sur la même longueur d'onde, quoi.
le twist pour moi a lieu au moment où Pearl devient vampire.
Ouais, enfin ça arrive assez vite, hein. Je crois que c'est
Ben, c'est dans le deuxième épisode.
ouais, voilà.
Avec cette découverte de sa condition.
Je m'y attendais un peu, quoi. Enfin, même quand tu vois la couverture, en tout cas de l'édition française,
Moi, je m'attendais à ce qu'elle devienne vampire, mais pas qu'elle devienne une américaine vampire, justement. Enfin, qu'elle soit de cette nouvelle génération, quoi.
Bah ouais, mais bon.
Et sa découverte petit à petit de ses pouvoirs, de ce qu'elle peut faire ou ne pas faire, ben voilà.
Ça reste, ça, ça reste, ça reste un peu, je sais pas, ça reste un peu en surface tout ça, quoi. Ça mériterait d'être un peu plus creusé, un petit peu plus travaillé. Je trouve que il y avait peut-être d'autres choses intéressantes à développer. Et, là,
peut-être,
là
peut-être
finalement,
l'année prochaine.
Oui, là finalement, durant tout le volume, c'est quand même essentiellement des combats, quoi.
Oui.
Des attaques de ou de suite ou de la nana, j'ai oublié son nom.
Pearl.
Pearl, voilà, et c'est que ça, quoi, finalement, quasiment. À différentes époques. Alors bon, on s'ennuie pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'action, justement.
Ah, puis c'est relativement bien écrit quand même. Même s'il y a beaucoup d'action, enfin voilà, il y a quand même un scénario, il y a des dialogues, il y a tout ça, quoi. C'est pas juste de l'action bête et méchante.
Oui, mais en même temps, j'ai pas été soufflé non plus, quoi.
Non, on n'est pas soufflé, mais c'est relativement bien écrit, je trouve. J'ai par exemple une série comme ça, publiée par des gens de chez Marvel ou de chez DC, quelque chose de beaucoup plus mainstream, je pense que ce serait vite fait chier, quoi. Beaucoup plus que quelque chose de chez Vertigo où on peut avoir une certaine liberté créative.
Ouais. Mais voilà. Et franchement, déçu, moi. Je m'attendais à mieux. Voilà, je m'attendais à quelque chose qui n'est pas venu. Je reste un peu sur ma faim, quoi, comme je te disais.
D'accord. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Tentez si vous voulez, voilà. On est mitigé, quoi. On n'a pas forcément le même avis.
C'est vraiment une histoire horrifique. Ça ne plaira pas à tout le monde. C'est vraiment gore, hein, aussi. Hein.
Oui.
C'est vraiment gore.
D'ailleurs, on n'a pas parlé vraiment des dessins de Raphaël Albuquerque. Moi, j'ai relativement bien aimé, et notamment par... Il y a quand même un certain changement de style entre les deux époques.
Ah ouais, mais moi, je dirais que globalement, de toute façon, il y a un style qui colle bien à American Vampire, parce qu'il a... Je sais pas, quoi. Il y a un style qui colle bien au rétro, à cette ambiance années 20...
Mais il arrive à nous rendre tout très lisse, en tout cas au début, hein, sur la partie années 20, alors que c'est vraiment sale sur la partie 1880, quoi. Et il y a vraiment ce changement de style. Alors, on reconnaît bien sûr le même dessinateur, mais il y a quand même un bon changement de style entre les deux parties, quoi. Qui petit à petit s'amenuise puisque le temps avance.
Ouais, c'est vrai. Mais ouais, enfin voilà, et puis il y a aussi ce côté de la ville, tu vois, où il y a le vampire au début qui est balayé, il me semble, par les eaux, quoi, qui est complètement envahi.
Oui.
Ça lave un petit peu toute la crasse ambiante, et après c'est tout nouveau, tout beau, et c'est à nouveau entaché de sang par le retour de Sweet, et puis on retrouve un petit peu ce côté-là, quoi, tu vois, c'est genre à chaque fois c'est la nouvelle vie plein d'espoir, on rebâtit quelque chose, et puis finalement ça finit en bain de sang, quoi.
Ouais.
Et on se rend compte que à chaque fois c'est qu'une illusion, quoi, une illusion de changement, de renouveau, et il y avait un petit message là-bas en dessous, quoi, sous-jacent. Mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment développé pour que ce soit véritablement intéressant, quoi.
À voir si si les prochains épisodes nous apportent quelque chose de plus.
J'espère.
Bien. Bon, bah, on va passer à la suite maintenant. Et pour notre dernière review de cette quinzaine, nous accueillons le fameux guest dont on parlait en intro. Et ce guest n'est nul autre que Claire.
Eh oui, il a été encore une fois cherché très loin.
Oh là là, quelle arnaque.
J'espère.
Oui, mais en fait,
on s'attendait à un auteur, au moins à Jeff Jones, et voilà, quoi, on a clair.
Enfin, Jeff Jones pour parler d'Unwritten, ce serait bizarre.
Ouais, mais on savait pas, on n'a même pas dit d'ailleurs pourquoi c'était encore.
Oui, bah, c'est pour The Unwritten. Et pourquoi on invitait Claire, puisqu'elle devait nous faire un article qu'elle n'a jamais fait.
Oui, voilà, parce que j'ai pas trop le temps et donc voilà.
Et puis t'as tes petits didis qui te font mal, c'est ça. T'as tes petits didis qui te font mal, tu peux pas taper au clavier, c'est ça.
C'est ça, ça faisait trop mal. Non, mais comme The Unwritten est pas facile déjà à expliquer à l'oral, ça aurait été encore pire à l'écrit, donc du coup, voilà, j'ai vraiment pas le temps de passer 2 heures pour écrire une...
Peut-être nous aurais-tu fait un article digne de Jean Lot.
C'est pour ça qu'elle nous a rejoint sur le plateau, de 250 mètres carrés, avec le public et...
Voilà.
Plateau,
la caméra et...
À la Plaine Saint-Denis, bien évidemment.
toujours.
Avec à la réalisation Pat Le Guen.
Exactement.
Évidemment.
Studio 501. Non, je pense que je pas grave.
Bien, donc, Unwritten.
Ah tiens, attends, je suis assis sur Dorothée. Elle était restée là, dans le décor.
Alors, on va dépoussiérer un peu.
Allez, vas-y. On y va.
The Unwritten, donc, premier tome qui sort chez Panini ce mois-ci. Série de chez Vertigo. Sont réunis dans ce tome les 5 premiers numéros de la série. Donc, le premier arc, plus un petit épisode à part, on en parle tout à l'heure. Le tout est écrit par Mike Carey, que l'on connaît bien quand on lit X-Men Legacy, notamment. Puis d'autres projets chez Vertigo.
Blazer.
On va pas refaire, voilà, et Blazer, Lucifer, etc. Et puis Peter Gross au dessin, qui n'est pas dégueulasse malgré son nom. Comprendront les anglophiles.
Ouais, et alors, si je peux juste rebondir sur la partie graphique, je dirais c'est juste le côté où ça pêche un petit peu, c'est peut-être le, ouais, les dessins. Un peu simpliste, on va dire, je trouve.
Oui, mais en même temps, ça correspond bien avec l'ambiance d'une série Vertigo.
Moi, les dessins m'ont pas dérangé, donc...
C'est pas dérangeant, mais voilà, c'est... Peut-être là où ça pêche un peu, quoi, parce que côté scénar c'est plutôt bon, et tu vas nous en dire plus tout de suite.
Mais juste pour finir sur le dessin, moi je trouve que ces parties correspondent bien avec les parties romans, justement, côté livre pour enfants, etc.
Ouais. Mais c'est la tête, au fait, des personnages. Voilà, c'est bon.
D'accord.
Enfin, c'est pas, ouais. C'est pas une grosse complainte.
Eh bien, puisque tu es notre invité, Claire, nous allons te laisser faire le résumé et nous reposons.
Alors, le résumé The Unwritten, c'est vraiment pas facile. Donc en fait, on a un personnage principal qui s'appelle Tom Taylor, qui est le fils d'un écrivain qui s'appelle Wilson Taylor, et qui, outre le fait qu'il a écrit une série de best-sellers du style Harry Potter, dont le héros principal se nomme Tommy Taylor, a disparu du jour au lendemain. Donc là, on a donc Tom Taylor le fils, Wilson Taylor le père, et Tommy Taylor le héros littéraire. Et
c'est quand même une grosse
erreur. On va faire un jeu. Appuyez sur Tom Taylor. Yes.
C'est ça.
Tom Taylor.
C'est quand même une grosse série de romans, parce que je crois qu'on en est au 14e.
Ouais, c'est un gros roman. Et justement, il a disparu à la fin du dernier roman publié, et on n'a pas la fin de l'histoire. Ce qui fait que du coup, tous les fans dans le monde entier sont vraiment au comble du suspense. Et comme l'auteur a disparu, les fans en sont venus en fait à considérer Tom, le fils, comme l'incarnation du personnage de Tommy Taylor aux yeux du public.
Mais d'ailleurs, il lui ressemble.
Bah oui, il lui ressemble pas mal. Et là, c'est vrai que pour le coup, pour les dessins, ça plus Tom, Tommy. Donc ça va, on vous a pas perdu là. Vous nous ferez un petit résumé.
Je sais pas, moi je suis largué, je l'ai pas lu. Hein. Non, je rigole.
Donc là, on a donc Tommy Taylor, qui en fait, lors d'une convention Tommy Taylor, justement, ils font des conventions Tommy Taylor, comme nous on fait des conventions de comics.
Harry Potter.
Voilà, Harry Potter, conventions ce que vous voulez, Doctor Who, tout ça. En fait, il y a pas mal de questions qui émergent par rapport à l'origine du fils de l'auteur, justement.
Non,
donc
Tom.
Tommy Taylor, Tom. Oh merde, je savais que je me planterais un moment. Tom. Et donc en fait, voilà, on se demande s'il est vraiment le fils de l'auteur. S'il a été adopté, ou, et là c'est la grande question, est-ce que ce serait possible qu'il soit un personnage littéraire qui ait pris cher?
Non, enfin, qui ait pris cher. comment tu l'écris?
Il a pris cher, le mec.
Il va prendre cher, hein, justement. Il va prendre très cher dans l'histoire.
Qui ait pris cher, flèche, tu vois, qui ait pris cher, qui voilà, qui soit.
Flèche.
Flesh and bones, quoi.
Non, mais voilà, je merde.
J'en sais rien, comment vous voulez dire ça autrement?
Qui a pris corps.
Non, oui, je suis une flèche, je comprends tout très vite. C'est pas comme les auditeurs qui doivent rien comprendre.
Surtout que c'est la review du truc le plus dur, et c'est là qu'on déconne.
Non, non, mais sérieusement, donc, pour résumer à ma manière, c'est simple, hein, un grand auteur qui fait des romans type Harry Potter a disparu, et son fils fait des conventions, et voilà.
Et son fils est considéré comme l'incarnation du héros des bouquins qu'il a écrit.
Jusqu'à ce que cette fameuse journaliste, Lizzie Exam, lui pose en pleine convention la question, mais votre numéro de sécurité sociale est complètement bidon. Vous n'existez pas réellement, qui êtes-vous? Voilà.
Voilà. Et du coup, bah, même lui, il découvre en fait qu'il n'existe pas. Et du coup, bah, il va se lancer dans une quête.
Une quête d'identité.
Et toujours une bonne quête dans des bouquins comme ça. Et puis, bah, on va suivre cette quête identitaire avec un héritage littéraire assez costaud derrière lui, quoi.
Oui, alors en fait, c'est une espèce de roman, enfin de roman. D'ailleurs, c'est un comic book. C'est
bien que justement.
Pas mal de suspense. C'est une espèce de thriller fantastique, quoi, en fait.
Fantastico-littéraire, vraiment.
Fantastico-littéraire, ouais.
Comme tu dis, justement, la confusion avec le roman est facilement faisable, étant donné que on a des passages de roman dans ce livre qui sont mis en image quand même, mais on a des passages de roman.
Mm. Oui. Et on a des extraits aussi. Oui, c'est ça que tu voulais dire.
Oui, c'est ça. Oui, ouais, qui sont des extraits du livre, tout simplement. On voit certains passages de certains tomes du livre.
Ouais. Ou est-ce même des extraits peut-être de films adaptés des romans peut-être.
Non, je pense que c'est des.
Quand on voit la narration, ouais. Notamment sur les premières pages du tout premier numéro, on voit une description écrite. On voit le personnage qui parle dans une bulle, et juste après la description écrite, on voit par exemple elle dit. Voilà, on voit sa pull, et puis en fait, elle dit machin, comme si c'était le dialogue vraiment mis en image, quoi. Et ça donne un côté narratif vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir.
Et ouais. Justement, moi, j'ai beaucoup aimé, donc, déjà, le fait qu'il y ait des morceaux du livre à l'intérieur du comics, et également des morceaux de la vie courante, on va dire. Donc, on a des pages de blog qui sont mises, on a des moments de télévision qui sont mis. Parce que
comme on était habitué avec Powers, hein, notamment avec Bendis, qui nous a fait longuement ce genre de choses.
Ah ouais,
oui,
parce
enfin,
qu'on voit
des extraits, quoi. Puisque des morceaux, on n'a pas un morceau de couverture qui tombe du comic book.
Non, mais... Des
morceaux de bouquins, des morceaux de pages qui tombent.
Mais c'est vrai que c'est pas mal fait, parce que du coup, ça permet de se mettre encore plus dans l'ambiance vraiment du livre avec Tommy Taylor, et se rendre compte vraiment de la folie que c'est pour les gens. Et je trouve que du coup, on s'immerge encore plus dans le
c'est
livre.
C'est un Justin Bieber, hein, un Justin Bieber littéraire.
Non, alors là, non, ça tu l'enlèveras, ça. Tu peux pas dire ça. Je suis désolée, mais non, quoi.
Non, mais pour rebondir sur ce que dit Claire, c'est vrai que ça fait ça donne des indices au fait à chaque fois.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment
la peine vraiment de tout lire, même les petits machins qui sont à moitié cachés parce que le découpage est mal fait et tout.
Non, le découpage est volontaire.
Non, mais je sais, mais je veux dire, c'est volontairement mal découpé, mais pour ceux qui veulent, qui aiment bien lire le petit machin là qui est mal découpé, ça donne des indices en plus, quoi.
Voilà. Bon.
Il y a des personnages dont on n'a pas parlé quand même. Le fameux grand ennemi de Tommy Taylor dans les romans, au même titre que Voldemort est l'ennemi d'Harry Potter. Tommy Taylor a son. Non, il a son ennemi. C'est dit dès la première page. On peut pas.
Non, mais je veux dire, c'est le nom que tu n'as pas le droit de dire.
Ah oui. Il va m'arriver une couille. Merde. Je ne finirai peut-être pas ce podcast. On a le comte Ambrosio.
Ouais, le comte Ambrosio.
Qui est une espèce de Nosferatu graphiquement. Ouais,
complètement.
On ne sait pas trop s'il est un vampire, ça laisse une scène assez cocasse durant la convention, dans le premier épisode, avec un fanboy ultime, quoi. Le genre de fanboy que l'on n'aime pas voir, d'ailleurs.
Qu'on n'aime pas avoir en séance d'autographe. Voilà. Et
puis, il y a son agent.
Pour dire que
agent, quand même. Rupert Swarm. Rupert Swope, pardon. Son agent qui n'est pas clair dans l'histoire.
Ah, mais
c'est pas clair, puisque Pierre est avec nous sur le plateau.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. T'as vu, on a fait genre, on n'a même pas compris ta blague. Donc,
Passons.
Non, mais voilà. Et tout ça pour dire que le héros principal va donc aller en quête du passé de son père, va surtout aller en quête de son identité, et voilà.
Il va retracer les derniers moments de la vie de son père, et ça part en Suisse, cette fois-ci.
Voilà. Et il y a Lizzie qui l'accompagne.
On va peut-être pas parler de cette partie, parce qu'au fait,
Voilà.
Il a aussi un héritage que lui a laissé son père, une chose que son père lui a enseigné, et qui est d'ailleurs une des seules choses que son père lui a enseigné. Ce sont les lieux où se sont passés les romans. Les endroits d'inspiration de certains romanciers.
Oui, par exemple, Baker Street.
Voilà, par exemple. Enfin, il y a énormément de références littéraires dans ce comic book. Ce genre de référence, ça m'a vraiment fait penser à une série comme Starman, écrite par James Robinson. Pour oui, moi, là, c'est vraiment dans le même esprit.
C'est pas du tout exploité de la même façon.
C'est pas de la même façon. Je veux dire, au niveau référence, complexité, et, voilà. Enfin, pour moi, c'est dans le même esprit, quoi. Et le dernier épisode m'y fait penser encore plus.
Ouais, mais là, les références sont encore plus, comment dire, justifiées, quoi, par vraiment l'histoire, l'intrigue. Ouais. Et en fait, The Unwritten pose la question de l'importance, enfin, de la puissance des mots. Puisque en fait, justement, toute son identité dépend vraiment de la définition du personnage en fait qu'a créé son père, et de l'importance des lieux aussi, puisque justement il y a cette importance qui est donnée aux lieux qui ont inspiré tel ou tel romancier, tel ou tel personnage de fiction, et voilà. Et du coup,
ce qui est tout ce qui est intertextualité et ce qu'il y a en fait. Les liens qui peuvent y avoir entre la fiction et la réalité, qui parfois sont pas forcément
Où se trouve la limite, la barrière, quoi.
C'est tout ça, exactement.
Ça pose aussi la question de la créativité pour les auteurs.
Oui, pas mal. Surtout avec le dernier épisode. Surtout avec le dernier épisode,
on l'aborde déjà dans l'épisode 3. Notamment quand on voit en Suisse cette espèce de petit rassemblement d'auteurs pseudo connus,
secrètes à moitié,
qui revient notamment sur le mythe de Frankenstein écrit par Mary Shelley, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ça s'adresse quand même à un public particulier. Enfin, en tout cas, c'est pas pour n'importe qui.
C'est quand même axé. Il y a des références, bien sûr, plus difficiles à comprendre que d'autres. Pour qui n'a pas lu, toutes les références littéraires auxquelles ils font allusion. Mais les trois quarts, en fait, celles qui sont les plus appuyées, comme la création de Frankenstein et Baker Street, par exemple, pour Sherlock Holmes, c'est quand même des trucs super connus que le lecteur comprendra, même s'il n'a pas lu les œuvres en question.
Moi, comme je dis, quand je dis que c'est pas adapté à tout public, c'est-à-dire que je pense que un gamin de 12 ans, par exemple, ne sera pas à même de lire Unwritten et d'en comprendre la substance, et surtout de s'intéresser réellement à l'histoire. Ça va le faire profondément chier.
Ah non, je crois pas. Non, moi je pense franchement qu'il y a moyen justement par The Unwritten de l'intéresser peut-être à des choses auxquelles il se serait pas forcément intéressé à la base. Franchement, Unwritten, c'est l'histoire principale est vraiment super sympa, et ce qui s'y passe d'ailleurs ensuite, on va pas le révéler, mais à mon avis ça pourrait plaire à de jeunes lecteurs. Hein. C'est quand même assez palpitant et assez intéressant, quoi.
Pour moi, il faut une certaine maturité, mais tu vois, justement, on n'a pas les mêmes avis, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc justement, vous, auditeurs, faites-vous votre avis.
Mais je sais pas, moi, je sais qu'avant l'âge de 10 ans, j'ai lu, par exemple, c'est du franco-belge, mais les Blake et Mortimer, etc. J'ai bien aimé, donc je pense qu'on peut lire jeune ce type de truc.
Je sais pas si dans Blake et Mortimer, il y a autant de références littéraires.
Non, bien sûr.
L'âge de 10 ans, j'avais lu Frankenstein et j'avais lu Dracula de Mary Shelley et de Bram Stoker. Mais honnêtement, à l'âge de 12 ans, je le sais très bien, qu'avec mon caractère de l'époque et mes goûts de l'époque, quelque chose comme The Unwritten m'aurait profondément fait chier.
C'est de la merde.
J'avais de la voix qui mue à 12 ans, ouais. Quoi que j'ai pas eu beaucoup de mue, mais...
Non, mais t'avais déjà ta barbe à 8 ans, hein. On le sait tous.
Ouais. Et oui. J'étais très barbu. Très barbu,
très jeune. Mature, déjà.
Très barbu, très jeune. Ma mère s'en souvient, ça l'a gratté à l'époque.
Très bien.
Bref, avec une blague dégueulasse comme ça, on va continuer. Il y a ce dernier épisode, quand même, qui est, je trouve, et c'est aussi ça qui m'a fait vraiment penser à Starman, un épisode où on apprend des choses sur l'histoire, mais qui est totalement à part.
Oui, un épisode autour de Kipling.
Et il y aura des épisodes récurrents comme ça
de Kipling,
dans le deuxième TPB aussi.
On a aussi Mark Twain.
Ouais.
Oui, qui est dedans, oui, effectivement. Et alors,
et c'est pour ça que je dis que tu vois, un enfant de 12 ans, je pense pas qu'un enfant de 12 ans s'intéresse réellement à Kipling, à part le livre de la jungle, sans savoir forcément que c'est écrit par Kipling.
Exactement,
d'ailleurs.
Exactement. Il le découvrira peut-être même d'ailleurs en lisant The Unwritten, quoi.
Et je suis pas sûr qu'un enfant de 12 ans s'intéresse à ce que peut avoir à penser Mark Twain, quoi. Mark Twain, pardon. Je suis même pas sûr qu'un enfant de 12 ans sache qui est Mark Twain. Je parle d'un enfant de 12 ans classique.
Aujourd'hui, hein.
Oui, c'est vrai. c'est vrai que les temps ont changé aussi, ouais. Malheureusement.
On passe toujours pour des vieux cons en disant ça, mais faut ouvrir les yeux, quoi.
Il y a eu la révolution Internet qui a fait régresser pas mal de gens, peut-être.
Ouais, pas du tout. Tu déconnes. Mais c'est vachement bien.
Mais moi je trouve que ça m'a fait penser surtout à Fable, parce que ça mélange fiction et réalité. En fait, ça te raconte un truc sur Kipling qui évidemment est faux en même temps, mais avec des éléments de sa vie qui sont vrais. Pareil pour Mark Twain.
Oui.
Bah moi, c'est
on a eu cette rencontre
la...
entre The Shade et Mark Twain. Non, c'était pas Mark Twain, pardon. Je sais plus qui c'était d'ailleurs que The Shade rencontrait dans Starman.
Oui, attends, c'était...
Mais merde, je sais plus qui c'était. Bref, bon, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pour ça que ça m'avait fait penser à Starman. Mais effectivement, l'analogie avec Fable, et je l'avais pas vue, et pourtant, ouais, c'est vrai, effectivement.
Et moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment par rapport à toute la question qui est posée par rapport à la créativité artistique.
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas grave.
Non mais oui, mais c'est posé d'une manière différente. C'est posé à travers l'histoire principale de The Unwritten, mais c'est aussi posé à travers ces petites histoires-là qui abordent les choses complètement différemment.
Oui.
Eh oui, complètement, oui.
Non mais voilà. Et non mais en plus, enfin, pour avoir lu la suite, c'est important. Ces petites histoires.
De toute façon, on se doute bien qu'avec Mike Carey, il n'y a pas une idée mise là-dedans qui ne sera pas importante.
Non, il y en a 10.
Au moins.
Salaud. Pourris-moi, vas-y.
Oui, mais effectivement, d'ailleurs, on pourrait même se demander quel rapport a finalement cette petite histoire avec le reste, et pourtant, ça en a plus d'un. Okay. Déjà, on retrouve certains personnages, justement.
Bien sûr.
Et surtout, comme dirait Claire, ça pose encore plus la question de la limite entre fiction et réalité, et puis l'importance surtout des mots, encore une fois. Puisque justement, Kipling, là, affronte ses adversaires à coup de texte, quoi, j'ai envie de dire.
Ah ouais, non mais oui.
Et puis, il y a cette fameuse liberté aussi, cette liberté de créativité. Est-elle réellement contrôlée? Est-on réellement libre de créer ce que l'on veut? Qu'est-ce qui marche? Pourquoi? Il y a énormément de questions qui sont posées, quoi.
Ouais, il y a une espèce de, comment dire, de, peut-être même de représentation du Comics Code Authority, enfin, tu vois, un espèce de truc comme ça, quoi.
Ouais,
on pourrait voir là-dedans, et autres, hein, autres personnes chargées de surveiller un petit peu tout ce qui se fait. Non, mais enfin, ça pose vraiment plein de questions. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage dans The Unwritten, c'est que Mac Carey, finalement, aurait pu peut-être créer un univers, comment dire, fictionnel, propre à ce qu'a ses délires, quoi, à ce qu'il voulait montrer. Parce que là, c'est vraiment la caricature d'Harry Potter, quoi. Tommy Taylor.
Oui, mais c'est aussi plus facilement reconnaissable. Comme ça, il s'embarrasse pas de nous faire plein d'explications. Quasiment tout le monde aujourd'hui connaît Harry Potter, donc il a besoin de nous expliquer que le gamin est un magicien, etc. On le comprend très vite, quoi. On voit tout de suite le rapprochement, et voilà.
D'ailleurs, il y a plein de parodies. Donc déjà, il y a la scène de la convention qui est vraiment excellente comme parodie. Mmh. Et il y a, comme tu disais, le cercle pas des poètes disparus, mais
d'auteurs.
Les cercles des auteurs, peut-être futurs disparus aussi, on verra.
C'est clair. Les auteurs qui se pensent doués, mais qui en fait...
Voilà,
c'est ça.
J'ai beaucoup aimé le passage où ils expliquent quel style littéraire ils font. C'est un mauvais rire, quoi.
C'est clair.
C'est vraiment très très drôle aussi, faut le dire.
Mais il y a un certain type d'humour que, comme je dis, tout le monde ne sera pas à même à comprendre non plus, quoi. Sans vouloir jouer les élitistes, hein, je veux dire, voilà. Il faut avoir lu et connaître un tout petit peu le monde littéraire pour trouver ce genre de scène drôle, quoi.
Ouais, mais en même temps, il y a une ambiance.
Oui, ah bah c'est oui.
Il y a un suspense, d'ailleurs, assez. On a envie de lire la suite quand on lit la fin du premier arc.
Ouais.
Et la quête du personnage principal, donc de Tom Taylor, c'est ça. Hein,
oui, c'est Tom. Ça, ouais. Tom.
Ouais, c'est Tom. Et là, est vraiment passionnante. Quoi. On a envie de savoir comment il va s'en sortir, quelle va être la suite, est-ce qu'il va retrouver son père, peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'il va découvrir ses véritables origines?
Son père est-il son père? Son père est-il un bel enculé aussi?
Et Tom Taylor est-il une vraie personne? Hein,
voilà. La question est vraiment posée à la fin.
Et puis que vient faire la pluie dans tout ça? Voilà. Et pourquoi mange-t-on des choses et pas d'autres? Tout ce genre de questions ou pas?
Voilà.
Dans non,
non. Non, vraiment, faut que vous le lisiez. C'est vraiment très bien.
Ouais, c'est vraiment très très bon. Une très bonne pioche de la part de Panini d'avoir été chercher ça. De toute façon, c'était un succès.
C'est pas, ils ont pas pioché vraiment. Non, enfin, en fait, ils ont vu que ça marchait et ils l'ont publié.
Oui,
quoi.
Mais ils ont fait attendre un petit peu puisque le 20e épisode vient de sortir aux States. À peu près, je crois, c'était la semaine dernière peut-être. Mais ils ont pas fait attendre trop longtemps. Puis de toute façon, voilà, le succès aux États-Unis est là et ils ont bien fait de le traduire. J'espère que ça va bien marcher en France parce qu'on veut la suite.
Mais je pense qu'il y a des chances que ça fonctionne. Il y a des lecteurs pour Fab, il y a des lecteurs pour pas mal de séries Vertigo. Puisque rappelons-le, c'est Vertigo, je sais même pas si on l'avait dit ici.
Si, on l'a dit, ouais.
Bon, ouais. Ça va, hein.
Oh. Ça fait du bien de leur dire, c'est du Vertigo.
On ne le dit jamais assez, de toute façon. Et oui, mais pour moi, c'est la série du mois. Enfin, la nouvelle série, quoi. La révélation du mois.
Oui. Oui.
Ah ouais, c'est clair.
Pour la main. On a eu de bonnes suites, ouais. Ce mois-ci. Mais là, c'est vraiment la nouvelle série à découvrir d'urgence. S'il y en a une, celle-là.
Moi, ça fait même partie des séries. On a fait le podcast sur ce qu'on a préféré en VF pour l'année 2010. Moi, je sais que The Unbeaten, ça fait partie des séries pour moi VO j'ai découvertes vraiment.
Sur les 5 titres que tu as lus dans ta vie.
Oui, voilà, exactement.
C'est l'une de tes préférées.
Non, ouais. Non,
tu en as lu 15, je pense.
Ouais. Non, vraiment, The Unwritten, c'est vraiment très très bien. Enfin, moi, je sais que ça me parle vraiment, toutes ces références littéraires, tout ça. Enfin, c'est exactement le style de livre que j'attends, quoi. Le style de comics dans lequel je suis bien.
Non, mais même au-delà de ça, je pense que même quand on n'a pas toutes les références, ça permet d'apprendre tout en s'amusant, j'allais dire.
Comme voilà, ça. The Unwritten n'est pas seulement un amusement, mais c'est aussi un enseignement.
Et ça fait aussi le café, ça fait
vraiment réfléchir. Tu viens nous vendre.
Non, mais ça nous fait réfléchir sur toutes les questions qu'on a abordées. La place de l'auteur, la puissance des mots, le choc des photos.
Tout ça.
Après, il y aura beaucoup de questions métaphysiques que vous vous poserez à la fin. Et, vous pourrez nous écrire des mails, si vous voulez, pour nous parler de vous. Comment vous voyez la vie maintenant est-ce que vous aussi, vous pensez que vous êtes un personnage fictif, tout ça?
C'est la review la plus barrée qu'on ait faite, je crois.
D'ailleurs, on va se barrer bientôt, mais...
C'est ça.
Donc, vous l'aurez compris, achetez-le. Donnez cette chance. Donnez sa chance à cette série.
Ah ouais, vraiment.
Testez. Ça va plaire ou ça va déplaire. Je pense qu'il n'y aura pas d'entre les deux. Hein. C'est vraiment quelque chose qui plaît ou qui ne plaît pas du tout. C'est
moi,
pas
je
genre
pense que...
moyen, ouais, bof, non.
Non, voilà. Mais je pense que ça va plaire.
Puis, faites-nous partager votre avis si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. D'ailleurs, dites-nous pourquoi aussi. Ce serait intéressant de savoir pourquoi vous n'avez pas aimé The Unwritten.
Ouais.
Bien, voilà. Donc, c'est la fin des reviews. Mais on ne se quitte pas tout de suite car nous avons reçu un mail pour notre numéro 50 de Comic City. Donc, je vous le lis tout de suite. Bonjour à toute l'équipe de Comic City. Bon, ils sont pas tous là, mais ils sont contents de savoir. Je m'appelle...
Si, je fais ça, moi. Bonjour. Et puis, Nono, bonjour.
Oh, qu'est-ce que tu fais bien, Nono?
Je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans et cela n'a fait que 5 environ que je lis des comics. Oui, je sais, mon entrée donne l'impression que j'entre aux alcooliques anonymes. Ah oui, au fait, si vous n'avez pas encore remarqué, c'est Fuge de Cap Chronicles qui vous écrit. Cap Chronicles, mon partenaire.
Mais on ne le lit pas alors. C'est pas un vrai auditeur, quoi.
Bah oui, moi j'aurais préféré que ce soit quelqu'un de nouveau, quoi, qui nous ait découvert récemment. Oh non, là je suis déçu.
Non, mais on s'en fout de la suite du mail en fait.
Bien, bah merci Fuse pour ton mail. Bon, allez, je continue. Bref, je voulais profiter de ce 50e numéro de Comic City pour vous remercier de votre travail. Grâce à vous, je lis de plus en plus de DC. Je me suis aussi mis à la VO grâce à Comics Weekly. Et c'était loin d'être gagné d'avance vu mon accent anglais croisant entre un père Fouras et une vache espagnole. Ce qui fait vraiment plaisir
je
à Benny.
Je confirme, vraiment.
Ce qui reste dans la ligne éditoriale de Comics Weekly. Père Fouras.
Oui, complètement.
Et vache espagnole pour Steve.
Oui, bah oui, parce que j'aime bien les vaches.
Bah, Niort, doit y avoir des vaches espagnoles. Oui.
Je connais un importateur de produits espagnols dans le coin, mais je tairai son nom par souci d'anonymat. À ma connaissance, vous êtes l'un des rares podcasts à suivre depuis aussi longtemps une cadence aussi soutenue, et tout ça pour nous. Je pense que ça fait jamais de mal de vous le dire parfois, mais merci. Bah ouais, ça fait jamais de mal, merci à toi.
Merci.
Continuez sur votre lancée, car vous ne cessez de vous améliorer. Pour finir, au-delà de votre travail, je suis heureux de vous connaître in real life. Ouais, je me la pète. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer des passionnés. Et c'est aussi ça qui me plaît dans les comics, rencontrer des gens comme vous. Bah nous, rencontrer des gens... voilà, quoi, on le fait...
Parce qu'il faut le faire. Hein.
C'est pas notre grande passion, c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Hein.
D'ailleurs, non, on plaisante.
Ça a été vraiment un plaisir de rencontrer des fans, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, en tout cas des gens qui nous suivent. Et c'est vraiment agréable, quoi. Voilà, je vous quitte avant que Steve ne verse une petite larmichette. Bah, c'est trop tard, hein, Nico. Voilà, tu m'as fait pleurer. Mais j'aimerais tout de même vous poser une question.
N'importe quoi.
Que portez-vous habituellement quand vous enregistrez les podcasts? Ne mens pas, Steve.
Il demande vraiment ça.
Oui.
Ok. C'est une bonne question.
Que portons-nous? Eh bien, des vêtements. Des vêtements. Et je sais ce qu'il aimerait que je le dise, mais vais-je le dire? Eh bien, oui. J'ai un... Tel un Sherlock Holmes, puisque mon surnom dans les milieux autorisés, c'est le détective. Voilà. Je porte un peignoir. Qui m'aide à réfléchir.
Ça, on l'a déjà dit en plus.
Un peignoir rose.
Peignoir rose, ouais.
Voilà.
Mais pourquoi tu le mets quand tu enregistres? Ça, je comprends pas.
Parce que j'ai froid. Tout simplement.
Ah oui, mais alors pas en été.
Ah non, pas en été. En été, j'enregistre le Zobalère. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Hein.
Presque. Bien.
C'était pas vrai. Bref, avant de dire trop de conneries, je vais continuer le mail. Évidemment, je terminerai par le mot de la fin. Et puisqu'il écoute aussi Comics Weekly, c'est une petite rubrique que l'on fait habituellement dans Comics Weekly, pour ceux qui ne suivraient pas. Un petit mot de la fin, traditionnel par Benny, qui des fois va nous chercher des références pourries.
Oui.
Des fois. Moi je dirais tout le temps.
Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Et donc ce mot de la fin, en hommage à mon monteur préféré, c'est Pompé. Et là c'est une private joke que je n'expliquerai pas. Non, je ne peux pas l'expliquer.
Surtout avec un peignoir rose, voilà. Des explications,
donc,
a-t-on vraiment envie de les entendre?
Finalement, nous espérions faire une fin pas miteuse, mais grâce à Fuch...
C'est encore pire.
C'est foiré totalement. Oui. En tout cas, merci Fuch pour ton message. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Cap Chronicles, nos partenaires, on le répète pas assez souvent. Qui font des news, des reviews aussi, des petites interviews de temps en temps,
enfin voilà,
des concours aussi, oui, des concours. Voilà. En ce moment, un concours sur Hellboy.
Ouais.
À gagner le 11e tome, si j'ai bonne mémoire. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un complément parfait si vous voulez suivre l'actualité des comics, puisque bah, nous, c'est quand même pas notre dada, l'actualité, on en fait un peu, mais c'est pas. Notre activité.
Ah non, non, c'est sûr que les comics, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent sur Comic City.
Non, effectivement. Bref, donc c'est la fin de notre 50e épisode, pas si spécial que ça, finalement. Mais un petit peu quand même, avec un guest et un petit mail particulier.
Ah, puis il y a un bon programme.
Et puis, ce très bon programme. Donc, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour les sorties du mois de mars, les sorties VF. On remercie Claire de sa venue pour...
Ah oui, elle a fait le trajet pour nous. Hein.
Exactement, oui. C'était très compliqué.
C'était super compliqué.
Les embouteillages, tout.
Des moyens importants ont été mis pour ce Comic City, je m'en trompe d'ailleurs. Un budget faramineux de environ $50,000.
Au moins.
Juste pour enregistrer ce numéro. Quoi.
Ah, puis j'ai eu la chambre d'hôtel payée et tout. Enfin, vraiment... Ils ont fait des efforts, hein, pour une fois.
Et qui dit Comic City 50 dit hasard, 50 numéros chroniqués aujourd'hui.
Exactement. 50 épisodes US. Pile poil.
Ouais. Comme quoi, on en chronique à peine beaucoup.
Ouais. À peine.
Dans un épisode, on en fait 50 quand même.
C'est la meilleure classe. Bref, donc, sur une petite review, une petite fin qui ne devait pas durer longtemps.
12 minutes, il m'avait dit. 12 minutes maximum.
Non, c'est dans une ritane.
Ouais.
Bon, là actuellement on est à 30.
Ah bah très bien, nickel, c'est génial.
Voilà.
C'est cool.
On est bon.
Donc,
là.
Eh bien, à dans 15 jours, les gens. Merci à Claire d'avoir participé à cette review. Ça t'évite d'écrire un article.
Hein, ouais, j'aime bien cette manière de faire. Ouais. Je reviendrai peut-être pour iZombie à un moment ou un autre.
Oui, si un jour ça sort en français.
Voilà.
Ouais. Hein, et après on dira qu'on pense pas à toi. Et puis bah donc comme d'habitude, vous pouvez nous laisser des commentaires sur l'article.
Sur l'article, sur Facebook aussi.
Sur Facebook, oui, oui, le Facebook. Sur Twitter aussi, pourquoi pas, vous pouvez nous envoyer des tweets.
Sur Twitter.
Voilà.
Surtout que là, je viens de un peu tout récupérer sur Twitter, sur mon compte, moi, perso, en fait, parce que j'ai 15 millions de comptes, donc c'était plus simple. Mais je retweet les choses.
On s'en fout, allez, au revoir à tous. Ciao.
Et pour une fois que je dis un truc à peu près intéressant, que ça peut peut-être intéresser des gens.
C'est même pas pour une fois que tu dis un truc intéressant, c'est pour une fois que tu dis un truc tout court.
De toute façon, Benny et la technologie, hein, je veux dire Twitter et Facebook, Benny est contre tout ça, il a peur, il sait jamais
c'est
rien.
C'est pas la technologie, c'est la... C'est tous ces gens.
D'ailleurs, en fait, Benny a décidé d'arrêter d'utiliser Internet. C'est pour ça qu'il a un son particulier, c'est qu'il nous appelle par téléphone directement.
Voilà, non, je vous appelle par satellite. Mais mettez-vous à la page.
Par au Mac, c'est ça.
Oui, voilà.
Nous appelle par au Mac. Oui, donc, une référence que oh putain, c'est naze. Et on va jamais terminer. On fait toujours des fins miteuses. C'est pas possible. Oh là là. Faut vraiment qu'on travaille sur les fins.
Non.
Donc, sinon. Le répondeur.
Enfin, justifie les moyens.
On l'a encore, ça, le répondeur?
Je crois.
Ouais, je crois qu'on l'a encore, mais vu que de toute façon, il n'y a personne qui appelle.
Oui, bah, sauver le répondeur, j'ai déjà dit dans le comics.
Non, mais je crois que c'est pas la peine.
Sauver le répondeur. Si vous voulez que le répondeur soit sauvé, laissez-lui des messages.
Oui, mais apparemment, ils n'ont pas envie, vu que de toute façon, ils ne nous laissent pas de messages. Donc voilà, bah, ne nous laissez pas de messages et on va couper le répondeur, ce sera plus simple.
Sinon, faites comme Fuch l'a fait, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et voilà, et puis on le lit à l'antenne, on répond, on rigole, tout ça.
On lit pas forcément à l'antenne, hein, ça dépend si vous voulez ou pas, hein, c'est précisé dans le mail, hein, quand même.
Si vous voulez absolument pas qu'on ne lise, contrairement à ce que fait Marvel et DC aux States, où ils demandent un OK to print, nous c'est plutôt à ne pas lire à l'antenne.
C'est voilà. Ça en fait.
Si vous nous précisez, on ne le lit pas, sinon on lit.
Voilà, sinon on lit, donc...
Voilà, bon bref, on s'étale. Je vais juste rajouter que vous pourrez retrouver tous les anciens épisodes sur iTunes. Pas de renvoi sur pas tous, comment ça pas tous?
Non, bah les premiers, les tout premiers, non, ça marche pas parce que
cherchez-les sur le site alors.
Voilà. Donc les tout premiers, il faut faire sur le site.
Mais c'était pas bon.
Il y a que les 50 derniers épisodes en fait qui sont sur iTunes.
Bon. Ah, bah c'est les meilleurs. Ça tombe bien.
Voilà.
Et donc bah sinon les autres sont sur le site. Et puis pas de renvoi hein, cette fois-ci. Hein
si,
pas de renvoi vers les comics.
Non mais de renvoi vers quoi mais...
Oh là là, les vannes de merde. Oh putain, c'est fini. C'est un feu d'artifice.
Attends, mais c'est quoi? Pas de renvoi de quoi?
Pas de renvoi vers des comics weekly, cette fois-ci.
Ah
ça
oui,
fera plaisir
non,
à certains,
pas de
pense.
Renvoi, oui.
Surtout pas, oh là là, non. Méchant renvoi.
Non, pas
méchant,
bien les renvois.
Pas bien. On se fait engueuler à force.
Ouais.
Bref. On va y aller là, hein, peut-être. On va rentrer chez soi, c'est l'heure de terminer.
C'est l'heure de l'apéritif.
Et puisque si vous êtes encore là à nous écouter cette fin de podcast magnifique, sachez que maintenant nous allons enregistrer les reviews d'avant car on n'enregistre pas dans le bon ordre.
C'est ça.
C'est complètement décousu cette fin.
Oui.
Voilà, comme ça moi
comme le podcast,
je ne participe pas au reste et du coup.
Il est 19h. Il est 19h voilà. Passé.
Et tu peux vaquer à tes occupations.
Voilà, je peux vaquer à mes occupations, c'est-à-dire je vais aller voir Twitter et Facebook et voir ce qui s'est passé.
Mais les gens ont pas envoyé des messages maintenant, hein, c'est pas en direct. Hein.
Donc voilà.
Non mais dis-leur bonjour de ma part à Twitter et Facebook, hein, sachant qu'ils ils me verront pas souvent.
Non mais ça nous permet de dire du mal de toi, donc c'est très pratique
très
en fait. Il vaut mieux
très,
pas
très
que
bien.
Tu te mettes sur Facebook et
très,
Twitter.
Très bien. Parfait.
Shit my bunny says.
C'est ça.
Voilà. donc, bon, allez. C'était parce que c'était le 50, hein, vraiment. C'est vraiment pour ça qu'on se laisse aller. Sinon, on est plus sérieux que ça d'habitude. Où est la présence de Claire? Où est la présence de Claire qui nous pervertit?
Oui, non, mais ça, c'est bon. J'en ai marre d'être l'excuse parce que je rends tout le monde plus pervers, plus... Non, non, vous l'étiez à la base. Hein.
Pas du
tout. Faut arrêter, faut assumer un peu les gens.
Bien, bon, allez, on y va cette fois-ci, pour de vrai. Hein.
On y va, ouais. Je vais aller me faire un café.
Oh, c'est vachement bien comme ça.
C'est
bon là.
À dans 15 jours, peut-être.
À plus tard.
Si vous voulez toujours,
voilà.
Sûr. Et puis bah, d'ici là, plein de comics, plein de bonnes choses.
Plein de café.
Bonne vie, quoi. Oui, plein de café si vous voulez aussi. À bientôt tout le monde.
Ciao.
Salut.